Bon, je crois qu'il est l'heure. Donc, nous avons donc cet après-midi une conférence sur la réforme et en particulier sur Luther. Et donc, je vous présente Gérard Chazot, qui est avant tout un frère en Christ, mais aussi un professeur d'histoire. Et je vais prier pour introduire cet après-midi. Notre Dieu, nous voulons saluer ensemble cet extraordinaire vent de ton esprit qui s'est produit au XVIe siècle et qui a apporté ce renouveau dans la compréhension des Écritures. C'est une merveille que tu as permis et nous en sommes les héritiers. Merci de nous permettre de replonger nos regards dans cette époque pour mieux comprendre et mieux affermir notre foi. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. C'est peut-être pas une promenade, aurait été peut-être mieux, je ne sais pas. Pouvoir assister à un cours d'histoire, tout du moins orienté, bien sûr, sur la Bible et sur ce que l'Esprit de Dieu a fait à travers Luther. Donc, pour commencer, ceux qui chantent, là, les chanteurs, pourraient chanter le cantique de Luther, Rempart. C'est un rempart qu'il a composé après la diète de Worms, quand il a comparu devant Charles Quint, les cardinaux et les différents princes du Saint-Empire romain germanique. Voilà, donc si vous voulez commencer par le cantique. Luther. Heureusement qu'il y a l'histoire en France, l'histoire mémorielle, où on rappelle des souvenirs, parce que il y a 2 ans, 3 ans, je pense que si on était passé dans la rue pour demander Luther, on ne connaît pas. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? On ne connaît pas. Aujourd'hui, ne serait-ce que dans votre rue, on peut s'apercevoir de ce que Luther a pu faire, a fait. Au moins, ils connaissent les gens de la rue, connaissent Luther, puisqu'on l'a vu affiché sur vos pancartes. Donc, je vais présenter Luther. Alors, d'abord, voilà le titre. Donc c'est un homme du Moyen-Âge, finissant, à cheval sur le Moyen-Âge et la Renaissance, ces grands moments de l'histoire, divisés en 4 périodes, là nous sommes à la 2e période, et on entame la 3e période, et nous avons là des changements importants sur le plan culturel. Les historiens, beaucoup les dates, ça a au moins l'avantage ou l'inconvénient d'embêter les élèves à l'école qui doivent les apprendre. Et la date retenue, c'est le 31 octobre 1517, qui est la date convenue pour débuter la réforme. Et le problème, c'est quelle pertinence pour nous aujourd'hui. Le plan, alors j'insisterai un petit moment sur les contextes, vous allez voir pourquoi. Le cheminement spirituel de Luther, d'une expérience spirituelle à une affaire politico-médiatique, la tension avec Rome, la rupture, l'héritage de Luther. 2 ou 3 idées sur Luther, donc charnière entre Moyen-Âge et la Renaissance. C'est un homme qui est un vrai visionnaire. Et le problème que je voudrais essayer de montrer, la problématique que je voudrais développer, c'est comment cet homme qui a eu une expérience spirituelle remarquable, mais comme tant d'autres, pas le seul, comment cette expérience a-t-elle pu avoir le retentissement en Europe qu'elle a eu? Donc c'est tout un cheminement qui me paraît intéressant, c'est celui que j'ai essayé de transcrire et de vous faire part de ce cheminement-là. Voilà le personnage avec qui on va faire connaissance, un peu rondouillard, on va dire, beaucoup moins austère que Calvin, mais quelque part un homme d'une énergie remarquable. État civil, naissance en novembre 1483, dans le Saint-Empire romain germanique de l'époque, dans le duché de Saxe, le duché de Saxe, c'est important, on verra pourquoi. Son père est un petit exploitant de mines de cuivre, début de façon difficile, puis après un peu plus aisé. 6 enfants, Le père est sévère et exigeant, il avait pour son fils des ambitions, de se lancer dans le droit, qui était à l'époque une voie un peu royale pour les élites, ceux qui voulaient participer aux élites. La mère est très superstitieuse, si bien qu'il vit, n'est-ce pas, dans cette ambiance curieuse, étonnante de ce fin de Moyen-Âge où vous avez cette superstition qui mène la vie, qui conduit la vie des gens. Et alors Luther, ce qui est intéressant, je trouve très humain et pour nous, il a fait beaucoup de commentaires sur ses sentiments, sur ses réactions, sur comment il vivait les choses. Et il disait, nous pâlissions au seul nom de Christ. Pour vous dire, n'est-ce pas, quelle image il avait de Dieu. Voilà l'église donc d'Eisben où il est né. Alors, le problème des contextes. D'abord, c'est un homme avec des compétences remarquables, c'est clair. Force de caractère, un homme décidé, qui ne craint pas le choc brutal avec les autres, et il a manifesté ses capacités en la matière. Grande érudition, grande intelligence, dont la controverse, je vous dirai deux ou trois réparties bien senties, parfois même un peu rude, on va dire, qu'il a pu donner à ses adversaires. Mais un croyant en recherche, un croyant vrai. Alors, ce qui est intéressant chez Luther, je crois, à retenir, c'est que Luther, par son intelligence, ses compétences, ses capacités, va épouser véritablement les sentiments de son époque, les interrogations de son époque que les gens ne sauraient pas formuler parce qu'il manque un peu de mots, de savoir, lui va les formuler. Mais il va épouser littéralement cette ambiance qui est celle qu'il connaît en Allemagne et en France également, de façon un peu différente peut-être. Donc c'est ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Et il a vraiment une foi solide, une exigence dans sa vie, dans ses recherches existentielles, assez remarquable. Alors, les contextes. Alors, je vais m'apesantir un peu là-dessus, parce que j'aime l'histoire et ça me paraît, on comprend mieux le présent quand on connaît le passé. Les contextes sont multiples dans cette période intermédiaire entre Moyen-Âge et Renaissance. Il faut savoir, n'est-ce pas, Constantinople, la deuxième grande ville de l'Empire romain qui demeure, c'est tout l'Orient, n'est-ce pas, qui demeure. L'Occident a sombré au 5e siècle de notre ère et reste l'Orient avec Constantinople, prise par les Turcs en 1453. Certes, il n'y a pas Internet, il n'y a pas l'information, il n'y a pas la télévision à l'époque. Malgré tout, c'est un choc. C'est un choc qui surprend et qui inquiète. L'imprimerie, on en verra l'utilité et l'usage. Les grandes découvertes qui changent ton regard sur le monde. Vous savez, à cette époque-là, pour faire court et un peu caricatural peut-être, vous avez Galilée qui explique, après d'autres, Copernic, qui explique que la Terre tournerait autour du Soleil. Et puis, les grandes découvertes, Magellan et d'autres, qui vont découvrir d'autres continents. Alors, d'un seul coup et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la Terre était le centre du monde. Le Soleil tournait autour de la Terre. La preuve, il se lève le matin et se couche le soir. Et puis l'Europe. L'Europe était le centre du monde aussi. Subitement, tout s'écroule. Donc, il y a des conséquences, si vous voulez, qui bousculent. Alors, certes, le brave paysan, dans sa campagne, cultivant péniblement le sol, harassé par les impôts, va peut-être pas se rendre compte, mais les élites sont surprises, inquiètes. Qu'est-ce qui se passe? On est où maintenant? Tout s'ébranle, tout semble, disons, s'écrouler sous nos yeux. Donc, le monde rural donc, est marqué par le monde paysan, par le conservatisme. Ce qui a été fait marche bien, pourquoi le changer? N'est-ce pas? C'est ça, le monde paysan. On va refaire ce que les parents ont fait. D'ailleurs, en parenthèse, quand le pape d'Israël est rentré en Canaan, ils ont dit ben, comment ça a fonctionné, à quel lieu vous vouliez pour que la culture fonctionne, et on va reprendre les cultes des Baals. De toute façon, parce que ça a marché, enfin, ça a marché, ça fonctionnait, pourquoi pas continuer comme ça. Oui, n'est-ce pas, c'est un peu le monde paysan. Mais le monde des villes s'ouvre. Le monde des villes s'ouvre par les grandes découvertes, les marchands, intéressés par l'argent, mais aussi, toujours pareil, des problèmes un peu, ça surprend un petit peu ceux qui sont là. Et alors surtout, vous avez l'Église, et omniprésente. Alors certes, elle a subi une terrible division en 1054 entre l'Orient et l'Occident, c'est pas ? Et maintenant, l'Église en Europe, donc, a repris de l'importance. Il faut quand même savoir que ce qui est important, c'est que la ruine de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle, laisse l'Europe orpheline de pouvoir. Et quel est le pouvoir, le seul pouvoir qui a de l'importance? C'est l'Église. Si bien que l'Église, à une époque, avait une prééminence sur les souverains. Et les rois de France et d'ailleurs ont dû lutter longtemps pour récupérer un peu de cette influence-là. C'est un petit peu ce que, donc, comme ça qu'on veut vivre les choses. Elle gère la vie. Autrement dit, vous savez, à l'époque, vous pouviez confier à l'Église votre salut, votre vie existentielle, votre l'au-delà. On vous disait ce qu'il faut faire, vie communautaire, et tout allait bien. Voilà, n'est-ce pas, l'Église gère la vie, naissance, mariage, décès, et on va à la messe, et on fait ce que l'Église vous demande de faire. Et dans ces conditions-là, on peut penser que le ciel sera pour nous. L'excommunication, quand elle est prononcée, en principe, vous dirige vers l'enfer. Un monde dur et cruel. Donc, nous sommes au siècle passé, et une peste incroyable, un tiers des Européens, qui disparaît en l'espace de 3 ans à peu près. La guerre de 100 ans, ce n'est pas tant la guerre qui est embêtante, c'est plutôt la non-guerre. Parce que les soldats qui n'ont pas d'activité en trouvent. Et ils vont se loger chez les paysans en exploitant largement, pas leur générosité, parce que les pauvres ne peuvent pas le faire, mais c'est une véritable période difficile pour les paysans. Le schisme d'Occident, là c'est aussi lourd, 2 papes, 3 papes, un à Rome, un à Avignon. On en finit par en désigner un 3e, les autres ne vont pas se rétracter, enfin, c'est toute une histoire. De ce fait, le grand problème, alors voilà, c'est le problème à retenir déjà, c'est inquiétude. Inquiétude formulée, inquiétude ressentie, mais inquiétude générale, à savoir, mon salut, comment mourir en règle? Est-ce que l'Église est toujours pertinente, a toujours véritablement de l'intérêt de pape, on prend lequel? Lequel est le bon? Le pape étant l'autorité, la hiérarchie, n'est-ce pas, l'autorité suprême, et de ce fait, c'est un peu ennuyeux tout ça. Les prédicateurs, ils vont suivre un peu le mouvement général pour conserver leur fidèles. L'enfer, Dieu comme juge. Et de ce fait, face à ce besoin, à cette crainte, à cette peur, là, on va multiplier les gestes de piété. Plus on en fait, plus on va se rapprocher du ciel. Et n'est-ce pas, alors vous avez sacrement, pénitence, pèlerinage, indulgence, les indulgences, vénération des reliques. Le purgatoire, j'en parlerai après, disons, etc. Et vous avez, alors là, la peinture est assez évocatrice avec le paradis, puis après l'enfer, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Dans un rapport avec cela. Alors, Luther est un Allemand, pas un Français. Et Luther est un Allemand, et de ce fait, il y a un contexte spécifique en Allemagne pour Luther, que je présente parce que, sans celui-là, on comprend mal, il fait partie, n'est-ce pas, du succès de Luther, en quelque sorte. Donc, l'empereur de Saint-Empire romain germanique n'est pas héréditaire, mais il est élu par 7 électeurs, dont celui de Saxe. Et ces 7 électeurs ont ce qu'on appelle des pouvoirs régaliens. c'est-à-dire droit de rendre la justice, droit de battre monnaie. Et vous comprenez fort bien que l'électeur de Saxe, qui est un ami de Luther, va de ce fait pouvoir demander que Luther soit jugé en Saxe, et non à Rome. Alors l'empereur de l'époque contemporain de Luther, il vient d'être élu dans les années 1520, il a 19 ans. 19 ans. Ça a été, n'est-ce pas, le grand problème avec François Ier, qui prétendait aussi à ce titre-là, mais il a dû verser plus d'argent à Charles Quint, donc il a eu le poste. Rome. Alors, donc, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit en deux mots, pourquoi Rome a une pareille influence en Europe. Il y a véritablement, l'Europe est orpheline de pouvoir. Bien comprendre que l'Empire romain s'effondre au 5e siècle, et après, qui commande et qui ne commande pas les invasions. Vous voyez un peu cette espèce d'anarchie, et seule émerge l'autorité du pape, qui fait fonction, qui fait foi d'homme, disons, de référence. Alors, le problème, c'est que le pape, profitant de cette occasion unique, de ce créneau unique, de pouvoir joindre à son pouvoir spirituel, son pouvoir temporel, on verra après les états pontificaux, va donc alourdir les impôts ecclésiastiques, et il les alourdit d'autant plus facilement que le Saint-Empire romain germanique est un empire excessivement lâche, c'est pas un empire centralisé à la Louis XIV. Là, la France est une exception en Europe. Centralisation à la française, qu'on a toujours, prenez une carte des chemins de fer, vous verrez un peu, c'est une toile d'araignée autour de Paris. Ça, la France. Là-bas, pas du tout ça. C'est excessivement, disons, disparate, des villes, des électeurs, des princes qui ont leur autorité locale. L'empereur, c'est là, il supervise, mais l'Église profite de cette situation-là pour pouvoir imposer plus lourdement en Allemagne des impôts ecclésiastiques pour avoir de l'argent pour ces constructions. Alors, conséquence, quand Luther manifeste sa volonté de transformer les choses, il apparaît comme un véritable libérateur. C'est un révolutionnaire, Luther. Mais chic, formidable. Voilà quelqu'un qui va nous défendre. On va pouvoir compter sur lui. Si bien que la plupart des États du nord du Saint-Empire romain germanique, lequel allait, n'est-ce pas, des Pays-Bas, Belgique, jusqu'en Italie et en Espagne, c'était un véritable couloir très long, immense empire. Conséquence, le Nord a tendance à basculer dans la réforme parce qu'il se trouve en conformité avec les pensées de Luther sur le plan politique. Je ne dis pas que tous les chefs d'État soient des croyants convaincus, je m'entends bien, hein, mais ils voient une opportunité pour se soulager de l'influence lourde de Rome. Alors, de ce fait, il fait figure d'un libérateur. Guerre de 30 ans, qui va mettre en cause les États du Nord et du Sud, et Stanislas s'appelle la paix d'Augsbourg. Alors, je l'insiste parce que c'est assez intéressant sur le plan historique, et ça explique aussi la France, Louis XIV. Charles Quint, d'un homme intelligent, très jeune, prend conscience que son empire est très fragile, donc il faut faire attention, ménager la chèvre ou le chou, comme on dirait. Ménager les protestants, les réformés, les catholiques. Alors finalement, vient de là la grande idée que vous avez ici, n'est-ce pas? C'est que jus, alors je ne suis pas latiniste, hein, que jus regio et jus religio, tel prince, telle religion. Et à l'époque, n'est-ce pas, la religion du prince faisait office de religion de l'État. Voilà un petit peu le problème. Et c'était cette paix d'Augsbourg qui fera foi. Et Louis XIV disait très bien, une foi, une loi, un roi. Et donc, tous ceux qui ne sont pas dans la même foi, donc, doivent se convertir. Ils ont préféré partir, vous comprenez bien, à l'étranger. Le Vatican, c'est un pouvoir en lui-même. Alors, le Vatican a acquis des États pontificaux bien avant au 8e siècle. Bon, vous comprendre que les États pontificaux donc l'Italie centrale, appartenait de façon lâche, si vous voulez, à l'Empire d'Orient. Loin, l'Empire d'Orient. Pas encore déstabilisé, n'est-ce pas, nous sommes au 8e siècle. Les Lombards envahissent les États, ces États-là, les conquièrent, le pape est un peu impuissant, mais il fait appel à Pépin le Bref, qui va libérer ces États et, en cadeau, les donne au pape. Et voilà l'origine des États pontificaux. Un cadeau de Pépin le Bref, qui a libéré ces États, les donne au pape. Et depuis ce 8e siècle, jusqu'en 1871, 756-1871, date de la fin de la guerre franco-allemande, déjà la première guerre franco-allemande avec Bismarck, la France essaie de s'occuper d'aller combattre l'Allemagne, et pendant ce temps, elle était de Biculovis, la fille aînée de l'Église catholique, hein, faut savoir, Biculovis. Autrement dit, cette France va et ne peut pas défendre, et si bien qu'ils vont envahir Rome, les nationalistes italiens, et récupérer Rome avec une négociation. On est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui, à savoir Vatican, reconnu comme un État indépendant, 1,5 km², c'est le plus petit État du monde, mais État avec ambassadeur, etc., monnaie, tout ce que vous voulez. Hein, pas mais voyez un peu là, alors là vous avez une chute, mais ça c'est une autre histoire, je passe dessus. La basilique de Saint-Pierre. Sur son fronton, tu es Pierre, de cette pierre je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Matthieu 16. La basilique est construite en principe sur la dépouille, le sépulcre de Saint-Pierre, de Pierre, l'apôtre Pierre. Expliquez littéralement. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, c'est de Pierre bâtir mon église. Vous comprenez fort bien que l'église du Seigneur, l'église de Dieu, doit être à l'image de la grandeur de Dieu, d'où la beauté et la splendeur de l'église de Saint-Pierre. Et vous savez qu'il y en a, n'est-ce pas, en Occident, toutes les églises, ce sont des flèches, c'est-à-dire qui vont tendre vers Dieu, vers le ciel. Alors qu'en Orient, ce sont des voûtes, Dieu protecteur, vous voyez, n'est-ce pas, deux symboles différents. Mais il y a cette volonté, si vous voulez, d'honorer Dieu par la grandeur, le faste. Et nous sommes en pleine Renaissance. Les grands artistes vont apporter leur contribution pour peindre. Et si vous allez à l'abbaye Saint-Pierre, c'est extraordinaire, extraordinaire. La grandeur, la magnificence, voilà. Et puis elle conserve la mémoire de l'apôtre, et puis le Saint-Pierre, le Pierre et ses successeurs, les papes donc, qui ne seront pas pour raison, parce que c'est notre histoire aussi, les papes vont avoir ce qu'on appelle les clés de Saint-Pierre. C'est important ça aussi. C'est-à-dire la capacité d'ouvrir le ciel pour en retirer ce qu'ils jugent bon de donner. Il y a toute une théologie derrière. Alors voilà l'argent et les indulgences, la basilique de Saint-Pierre. L'autel baldaquin en marbre et bronze doré de 29 mètres de haut. Vous rentrez avec un bulldozer là au milieu, il n'y a pas de problème. Hein. C'est largement la place de tourner et de faire une promenade. Incroyable. Trois siècles a été reconstruite, n'est-ce pas, à l'époque, 1506-1616, sous le pontificat de 18 papes. Ils ont été tout reconstruits, tout refaits. Moyennant, finance, bien sûr, même si on ne payait pas les gens au SMIC à l'époque. Les indulgences, remise des clés du royaume par le Christ à Saint-Pierre. Alors, les contextes, je reviens un petit peu à la chute de Constantinople. La chute de Constantinople va être, donc, j'en ai parlé déjà, j'en ai dit un mot. J'ajouterai aussi. Quand la menace turque s'est profilée à l'horizon sur Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, qui est restée jusqu'à cette époque-là, c'était un vrai. Il y avait énormément de lettrés, énormément d'archives de tout genre, étaient vraiment conservés avec soin, des textes originaux, des philosophes de l'Antiquité, les textes bibliques, etc. Comprenez fort bien que tous ces lettrés-là, prévoyant la situation difficile qu'elle connaît à Constantinople, elle est tombée en 1453, ont pris le chemin de l'immigration. Et où voulez-vous qu'ils aillent? Quelle était la deuxième ville qui faisait référence pour eux? Ben Rome. D'où la Renaissance est née à Rome. Comprends, n'est-ce pas? C'est là, c'était la Rome, du coup, alors va voir arriver des pèlerins avec des valises, enfin, pèlerins accompagnés, j'imagine, des valises avec des archives de pas possible, qui vont ouvrir la Renaissance, entamer la Renaissance, qui après va déborder en France et ailleurs. Voilà à peu près, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire, et naturellement, l'occasion d'embellir avec tous ces peintres, l'occasion d'embellir cette magnifique église. Les papes de l'époque de Luther, Jules II, peu de temps avec lui, mais surtout Léon X, avec qui c'est là où va se faire véritablement, si vous voulez, le conflit. Alors voyez un petit peu, là, je ne vous dis pas, le décor, la chapelle Sixtine a décoré par Michel-Ange entre 1518 et 1512, et dont les dimensions correspondent au temple de Salomon. Donc c'est du grand pour le grand, et du beau pour le beau, ça c'est clair. Voilà, donc si vous voulez, c'est les contextes. Les contextes, et maintenant le cheminement spirituel de Luther. Comment donc cet homme, qui a connu une crise spirituelle, profonde, sérieuse, exigeante, va-t-il réussir à inonder l'Europe de ce qu'il a vécu? Je passe rapidement sur certains de l'école communale, l'école scolaire à Magdebourg, n'est-ce pas, un petit village, puis après l'école secondaire un peu plus loin, l'université à Erfurt. Voilà, je suis rien de particulier, si vous voulez. Mais une expérience, d'ailleurs, les films qu'on vous a projetés ici, on parle, le manifeste, une expérience assez difficile. Donc, on se rappelle que son père avait une vision pour son fils d'être juriste. Il avait mis les moyens pour qu'il fasse des études, etc. Et en rentrant de voir ses parents, un orage épouvantable, terrasse par terre. Il se croit mort. Mon problème, comment mourir en ordre? C'était le leitmotiv de l'époque. Et le voilà sur le chemin, quasiment sensation de mort imminente. Grâce à Dieu, il va rendre grâce à Dieu, il est épargné. Mais à ce moment-là, et immédiatement, il s'engage. Puisque, n'est-ce pas, il faut faire des actes de piété. Eh bien, on va en faire, c'est le moment. Et le voilà qui va rentrer au monastère des Augustins. Mais quelques jours après, n'est-ce pas, puisque l'orage a lieu le 2 juillet 1505, l'entrée au couvent le 16 juillet 1505. Donc il n'a pas tardé. Je ne vous dis pas, n'est-ce pas, son père, ce qu'il en pensait. Alors pour lui, entrer au couvent, ce sera, on m'avait appris à considérer Jésus comme un juge coléreux. On nous avait appris que nous ne pouvions pas racheter suffisamment nos fautes et qu'il était nécessaire de recourir au sein du ciel. Alors pour lui, le couvent, c'était vraiment la voie royale pour aller au ciel. Là, je vais faire le maximum d'actes de piété, de contrition, de tout ce que vous pouvez imaginer, le maximum. Et j'aurai le maximum de chances d'aller au ciel. Mais je ne sais pas. Mettons les chances de notre côté. Au couvent, alors vous l'avez vu, n'est-ce pas, sur les images qu'on vous a projetées, Luther... prostré sur le marbre froid du couvent, allant voir son supérieur se confesser une fois, puis oh, j'ai oublié ça, deux fois, et puis trois fois. On n'a pas idée, n'est-ce pas, de ces moments-là, 15 ans au couvent. Ce n'est pas quelques jours dans une retraite spirituelle, hein, où vraiment il s'est damné, martyrisé, de façon à véritablement se purifier et être digne du royaume de Dieu. Tout le moins, c'est ce qu'il pensait à l'époque. Il a pu dire, si jamais moine était entré au ciel par sa moinerie, certes, j'y serais rentré. Et je pense qu'il disait juste, il était honnête. Tellement, n'est-ce pas, il avait travaillé à son salut, mal compris sans doute, mais... Alors, il va faire de nouvelles études. Stopis, son supérieur hiérarchique, est un homme qui le comprend, il n'a pas adhéré à ses pensées, mais qui le comprend et qui va favoriser un peu, et en lui proposant, vu, n'est-ce pas, son inquiétude spirituelle, âme inquiète, il va lui dire, mais écoute, lis la Bible, pas qu'il connaît le latin, lis la Bible. Et quand il lit la Bible, qu'est-ce qui se passe? Il va découvrir des versets, tiens, mais c'est pas tout à fait comme on me l'a expliqué. Occam a une influence, non pas tellement parce que Occam était partisan des œuvres, mais en revanche, la raison, beaucoup moins, ce n'est pas du tout, ils ne tombent pas dans la philosophie du Moyen-Âge. Augustin, saint Augustin, l'homme est tombé de son propre mouvement, mais il ne peut lui-même se redresser. Voilà, le père de l'Église est reconnu, je m'entends bien, saint Augustin. Il dit ça, quelque part, Luther valide, accepte et reconnaît sa conversion. Il a pu dire, pour vous dire à quel point, n'est-ce pas, ça le tenaillait, cette histoire, ce problème, comment mourir en règle, tenaillé. J'aimerais qu'il n'y eût point de Dieu. Tellement là, ce Dieu juge qui était là pour vérifier, pour sanctionner, était exigeant à ce point-là. Il sera professeur de philosophie. Et alors, vous comprenez bien que quand on enseigne, on est obligé de lire, d'étudier pour faire passer le savoir et on étudie finement les choses, de façon à pouvoir en dire moins que ce qu'on en sait, mais quand même dominer un peu le sujet. Et quelque part, ça va dans le sens de lui faire découvrir un autre sens qu'il avait entendu. Il a pu dire, n'est-ce pas, à la fin, « Alors, pas de fuite possible, pas de consolation, ni au-dedans, ni au-dehors, mais tout accuse. Seul reste le désir nu d'un secours, mais l'âme ne sait pas de quel côté demander son secours. » Oui, n'est-ce pas, dans le doute, dans l'inquiétude, j'ai tout fait, refait ce que je fallait faire pour le salut, puis je ne sais toujours pas, j'en sais pas. Et dès que je commets un péché, ça y est, c'est l'enfer, assuré. Voilà, c'est un petit peu Luther. Donc, c'est la ville où il a étudié, où il a plutôt enseigné, pardon, à Wittenberg, etc. Son cheminement. Luther s'est arrêté sur un verset de Romains 1, verset 17. On le lit facilement. On n'a pas trop de problèmes, nous, pour le lire, pour le comprendre. Il faut bien savoir, n'est-ce pas, et autant de communautés que nous sommes ici représentées, autant de lectures dans la variété, dans la nuance, je ne vous dis pas dans les grandes lignes, on a des lunettes, on nous a enseigné comme ça, on continue à penser comme ça. Et on pense que je m'attache au texte, je reviens au texte là. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Car la justice de Dieu y est révélée sur la base de la foi, pour la foi, ainsi qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi. » Pour lui, ça voulait dire quoi? Ben, justice de Dieu, Dieu est un juge, c'est-à-dire qu'il va faire le bilan de vos actions et juger en conséquence. Seulement, qui sait, ce matin on a posé la question qui était parfait, et il n'y avait pas beaucoup de doigts qui se sont levés, disons. Donc on est toujours dans la même situation, hein. Et moi avec vous, rassurez-vous. Donc il a pu dire, moi je haïssais la justice de Dieu. Ce Dieu, implacable, dans l'Ancien Testament, avec sa loi exigeante, dans le Nouveau Testament, comme s'il venait de demander des commandements, allez-y, hein. Et faites comme ça. Donc, loi impossible à accomplir, et dans l'Évangile, il vient d'une certaine façon demander des comptes. Sens reçu. Et pendant des jours et des jours, il a lutté avec ce verset. Ça paraît rien, mais c'est véritablement là le nœud de son expérience. Et Dieu lui a permis d'être dans ce travail intérieur, si profond, de doute, d'inquiétude, de mauvaise compréhension du texte, d'une justice active. Dieu va demander des comptes. Il fait la balance. Est-ce que vous en avez fait assez, fait ou pas assez? Et je juge encore en conséquence. Et puis, évangile, sauvé, révélé, associé à justice. Mais ce n'est pas la même justice. Elle est révélée, ce n'est pas la même justice, peut-être. On ne sait pas. Vous voyez un peu, n'est-ce pas, l'enchaînement des mots ? Il s'arrête dessus. L'homme intelligent qui peut comprendre, et on comprend bien, n'est-ce pas, que ce qui est à l'œuvre, c'est l'Esprit de Dieu, qui va le bousculer et lui faire comprendre que ce que nous avons saisi, et maintenant nous sommes reconnaissants à Luther, d'avoir, non pas d'avoir découvert, d'avoir redécouvert la vérité première de l'Évangile. On doit faire confiance à la déclaration. La justice de Dieu n'est pas une instance judiciaire qui condamne le pécheur, mais un don de grâce qui justifie le pécheur dans la mesure où il accepte le don de Dieu. Ça change, ça change. Voyez un peu le changement de regard, des jours et des jours pour y arriver. Et la citation d'Habacuc n'est pas innocente. Vous avez lu Habacuc, c'est un des rares prophètes, n'est-ce pas, qui n'est pas envoyé vers un peuple quelconque pour annoncer la prophétie, la pensée de Dieu. Mais dialogue avec Dieu. Et il lui dit à Dieu, mais enfin, regarde un peu ton peuple. C'est scandaleux ce qu'ils font. C'est impossible, impensable par rapport à la loi. Dieu lui dit, pas de problème. Je résume, n'est-ce pas. Je vais le sanctionner pour ce désordre. Et je vais envoyer l'Assyrien, qui sera mon arme contre eux. L'Assyrien, réputé pour leur cruauté. Mais comment tu vas faire juger ton peuple par plus inique que lui? C'est impensable, ça. Et on a le beau cantique d'Habacuc à la fin, où vraiment il s'en remet à Dieu. Ben oui, mais comme on nous a dit ce matin, les plans de Dieu se jouent dans le temps et non pas dans l'immédiateté qui est la nôtre. Autrement dit, oui, un jour, Dieu rétablira les choses, bien sûr. Il a d'ailleurs rétabli, puisque après, la Syrie a été vaincue, a été aussi jugée. Voilà un petit peu. Donc, merci Seigneur, j'ai enfin découvert ta vérité, celle qui m'affranchit de cette crainte de la mort, parce que je fais foi à ton message. Donc là, je vais passer, parce que si vous voulez, un verset que j'aime beaucoup, et cette découverte-là, il a formulé en termes qui sont touchants, émouvants. N'est-ce pas un homme qui s'est battu avec lui-même pour acquérir par lui-même le salut, selon l'enseignement de l'Église catholique. Il peut dire, toi, Seigneur Jésus, tu es ma justice, mais moi, je suis ton péché. Tu as assumé ce qui était à moi et tu m'as donné ce que je n'étais pas. N'est-ce pas là le beau résumé de l'Évangile?